Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans un instant, comme tous les matins à 7h06. C'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction des RFI, nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Vous nous rejoignez pour nous poser toutes vos questions afin de mieux comprendre l'actualité. Il vous manque des clés, des repères. Et bien surtout, n'hésitez pas, abusez du téléphone. Vous nous appelez tout au long de la journée, 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat et nous parlerons tout à l'heure de la lutte contre l'insalubrité dans les villes africaines. C'est vrai que la plupart des agglomérations sur ce continent sont confrontées au casse-tête du ramassage des ordures. C'est le cas notamment à Bamako. Depuis plusieurs années, la capitale malienne connaît de sérieux problèmes d'assainissement. De nombreux quartiers offrent un spectacle désolant avec des montagnes d'ordures. Du coup, la mairie vient de lancer l'opération Bamako Ville Propre. Des centaines de personnes sont mobilisées depuis quelques jours, ainsi que des dizaines de véhicules. 9 milliards de francs CFA, soit 1 300 000 euros, seront débloqués sur 8 ans pour permettre à la capitale malienne de se refaire une beauté. Alors que pensez-vous de cette initiative? Qu'en est-il d'ailleurs dans votre ville? A-t-elle elle aussi besoin d'un grand coup de balai? On en parle et vos témoignages nous arrivent d'ailleurs sur la page Facebook de l'émission. Quelques 300 témoignages déjà. On vous donnera évidemment la parole dans une trentaine de minutes. 33 9 693 693 70. Mais d'abord donc, vos questions, des questions sur le procès dit du Carlton, dans lequel, vous le savez, Dominique Strauss-Kahn est poursuivi pour proxénétisme aggravé. Bonjour Régis.
Bonjour Monsieur Juan.
Vous nous appelez de Brazzaville, on vous écoute.
Le proxénétisme étant une activité consistant à tirer profit de la prostitution d'autrui ou à la favoriser, Monsieur Dominique Strauss-Kahn reconnaît avoir participé à des soirées libertines dont il ignorait le statut de dame. Ma première question de savoir, existe-t-il des preuves de la part des dites prostituées pouvant confirmer que M. Dominique Strauss-Kahn était bien au courant de leur statut? Et la deuxième, à quelles sanctions M. Dominique Strauss-Kahn s'expose-t-il en cas de condamnation au proxénétisme en fonction de la loi française?
Alors, c'est vrai que la semaine dernière, à la barre, l'ancien patron du FMI a maintenu qu'il ne savait pas que les femmes qu'il rencontrait lors de ses soirées libertines étaient des prostituées. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Juan.
Merci d'être en direct de Lille. Vous suivez ce procès pour RFI. C'est d'ailleurs aujourd'hui que DSK va prendre connaissance des réquisitions du procureur. La question de Régis est intéressante. De quelles preuves dispose effectivement l'accusation pour penser et pour affirmer que Dominique Strauss-Kahn savait que les femmes qui s'offraient à lui étaient des prostituées?
Bah, c'est une construction, c'est un dossier. Les juges d'instruction qui ont mis DSK en examen en mars 2012 pour proxénétisme aggravé, donc, ont estimé que, à leurs yeux, il était le pivot central, le principal bénéficiaire de ces parties fines. C'était leur conviction, Juan. À leurs yeux, et cela suffisait à engager des poursuites. Frédéric Fèvre, le procureur de Lille, a en revanche une toute autre lecture du dossier. Et il a choisi de faire le tri entre morale et droit, et ce, quel que soit le jugement que l'on peut porter sur le comportement sexuel de Dominique Strauss-Kahn. En examinant le rôle joué par l'ancien patron du FMI, les échanges de SMS pour organiser ces soirées, le procureur arrive à la conclusion que cela ne fait pas de DSK un proxénète, un comportement immoral. Ça reste à l'appréciation de chacun, mais vous savez, en droit, pour condamner, il faut des preuves, particulièrement devant un tribunal correctionnel. On n'est pas aux assises, l'intime conviction ne suffit pas. Il faut bien le constater, des preuves, il n'y en a pas. D'où la probable relaxe qui va être requise à son égard tout à l'heure par le ministère public. Alors vous avez d'un autre côté les prostituées qui ont témoigné à la barre, qui expliquent qu'ils ne pouvaient ignorer leur véritable statut. Mais en même temps, elles disent oui, effectivement, on leur a jamais dit... clairement, on lui a jamais dit clairement qu'on était des prostituées. Et les membres du réseau, ses amis qui organisaient ces soirées le disent, on lui a caché. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas de preuves formelles.
Pas de preuves formelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'hier, deux prostituées ont abandonné les poursuites engagées à l'encontre de Dominique Strauss-Kahn.
Et oui, c'est naturel, puisque devant un tribunal correctionnel pour entrer en voie de condamnation, il faut des preuves. Quand on n'a pas de preuves, et ben de fait, on s'oriente vers la relaxe. Donc c'est un constat, C'est constatant qu'il n'y a pas de preuves pour entrer en voie de condamnation. Mais elle n'abandonne pas les poursuites. Hein. C'est les parties civiles ne sont, c'est pas leur rôle. C'est le parquet qui engage des poursuites, pas les parties civiles. En revanche, elle ne demande pas réparation. Voilà.
D'accord.
Mais parce que elles savent pertinemment que Dominique Strauss-Kahn ne pourra pas être condamné.
Ouais, si DSK est tout de même reconnu coupable de proxénétisme aggravé, que risque l'ex-patron du FMI?
Alors aggravé, c'est 10 ans de prison.
D'accord.
C'est une peine assez lourde.
Peine assez lourde, effectivement. Et une amende également, il me semble, de plus d'1 million d'euros.
Voilà.
Voilà. Franck, reste avec nous encore quelques minutes. Je sais que vous allez très rapidement rejoindre la salle où se déroule le procès de Dominique Strauss-Kahn. Autre question, Florent, bonjour.
Bonjour, Juan. Bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes au Tchad, vous nous appelez de Djamena. On vous écoute.
Oui, je suis à peine Djamena au Tchad. Dominique Strauss-Kahn est mis en examen pour présomptivement avec les autres personnes. À propos, j'ai deux questions. Comment est organisé le réseau de prévenitisme? La deuxième question est, quelles sont les charges qui pèsent sur les prévenus? Est-ce que les charges sont les mêmes pour tous les prévenus?
Ah, est-ce que les charges sont les mêmes pour tous les prévenus? Franck-Alexandre, d'abord, on parle de 12 soirées libertines hein, qui ont été organisées en 3 ans avec des prostituées, en présence donc de Dominique Strauss-Kahn, des soirées qui ont eu lieu à Paris, à Lille, à Bruxelles ou à Washington. Comment était organisé ce réseau de proxénétisme?
Alors, il y a plusieurs cercles hein, de ce réseau au Rouen. Il y a d'abord les amis, hein, et au premier chef, David Paskowski, l'ami intime de DSK, rencontré au début des années 2000. C'est un prospère entrepreneur lillois, et lui, il décèle très vite la face cachée de DSK, à savoir son goût pour le libertinage. Il a alors tout fait pour organiser des soirées, pour lui plaire, tout simplement. Mmh. Et visiblement, Paskowski est très fier, c'est ce qu'on a ressenti à l'audience, d'avoir pour ami un personnage aussi influent, et il va présenter Dominique Strauss-Kahn à deux de ses amis qui sont David Roquet, qui est le patron de la filiale, d'une filiale du groupe Eiffage dans le Nord, et à Jean-Christophe Lagarde, qui est le commissaire divisionnaire de Lille. Alors seulement, vous savez, hein, trouver des femmes libertines pour des parties fines, ben, c'est pas forcément évident. Alors les trois hommes vont tout simplement se tourner vers des professionnels qui travaillent bien souvent en Belgique, notamment dans les bars montants tenus par Dominique Alderweireld. Vous savez, Alderweireld, donc on l'appelle Dodo la Saumure. Et ils vont se tourner également vers le palace du Carlton à Lille, où travaille René Cochefer, qui a pour habitude, lui, de mettre en relation des occasionnels, comme on les appelle, avec des notables lillois. Voilà comment se constitue ce réseau de proxénétisme qui va organiser, vous l'avez dit, Juan, une douzaine de soirées en 3 ans. C'est pas considérable, hein. Si le nom des SK n'était pas apparu dans ce dossier, on n'aurait jamais entendu parler de cette affaire de faible envergure.
Ouais, et on dit procès du Carlton, alors qu'aucune de ces soirées ne s'est déroulée dans cet hôtel du Carlton situé à Lille. Florent nous demandait quelles sont les charges qui pèsent sur chacun des prévenus. On va peut-être pas tous les citer. En tout, il y a 14 personnes, dont Dominique Strauss-Kahn.
Proxénétisme aggravé. Alors après, le tribunal va faire le détail en fonction du rôle de chacun. Eh bien, ça sera peut-être quelques mois avec sursis pour l'un, un peu plus pour un autre. Mais tous comparaissent pour proxénétisme aggravé.
Merci Franck-Alexandre. On vous retrouve évidemment un peu plus tard sur l'antenne d'RFI, puisque c'est aujourd'hui que le ministère public doit dire s'il considère l'ancien patron du FMI coupable de proxénétisme aggravé ou s'il demande sa relaxe. On suivra ça avec vous, Franck-Alexandre. 9h, 9h19 à Paris. Ce sont vos questions à la rédaction. Pierre Firsi du service politique d'RFI nous rejoint. Bonjour Pierre.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. On a reçu des questions sur Stéphane Tiki, qui a défrayé la polémique il y a quelques jours à l'UMP. Georges, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de l'émission Appel sur l'actualité.
Vous nous appelez du Cameroun, on vous écoute.
Oui, j'appelle de Douala. Avant de poser ma question, permettez-moi de souhaiter beaucoup de courage à nos forces de défense de territoires qui veillent sur nos frontières le long des côtes contre, je fixe, un ennemi impitoyable, et parlant de Boko Haram.
Voilà, vous parlez de Boko Haram, effectivement, il y a une forte mobilisation camerounaise, mais aussi sous-régionale pour lutter contre ce groupe islamiste. Vous, Georges, vous nous avez appelé car vous avez des questions concernant Stéphane Tiki. Stéphane Tiki, c'était lui qui dirigeait jusqu'à il y a encore quelques jours l'organisation des jeunes de l'UMP.
C'est exact. J'ai appris sur la page Facebook de RFI que Stéphane Tiki défendait un projet très controversé en France. Et à cet effet, j'ai 3 petites questions. Notamment, la première, de savoir quel est le parcours politique de M. Stéphane Tiki, puisqu'il est Camerounais, du Cameroun jusqu'à la présidence jeune de l'UMP.
Alors, On va déjà, si vous le permettez avec perfection, revenir sur ce parcours. Pierre, c'est vrai que cette affaire a mis dans l'embarras l'UMP, puisque celui qui dirigeait l'organisation des jeunes de l'UMP, les jeunes pop, était un sans-papier. Hein, il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français. Que sait-on de son parcours ? Il est arrivé en France, je crois, juste après son bac au Cameroun ?
Oui, c'est ça. Il est arrivé en 2005 en France. Alors, on va retracer un petit peu son histoire au Cameroun. Il a grandi à Yaoundé. Il est né en 1987, il a fait ses études au lycée français, et une fois son bac en poche, donc il va s'envoler pour Paris, où il va étudier l'économie d'entreprise à la Sorbonne. Hein. On est donc en 2005, il arrive en France, il faut le préciser, avec un visa long séjour, donc il arrive en France régulièrement, mm-hmm. Il arrive avec un bon visa en poche. Un an plus tard, il s'engage alors à l'UMP, séduit par le discours de Nicolas Sarkozy. On est en 2006, vous savez, Nicolas Sarkozy se lance dans la campagne présidentielle pour 2007 où il sera élu. Stéphane Tiki, lui, à partir de 2008, va s'investir localement dans le 7e arrondissement de Paris, aux côtés de Rachida Dati, va faire campagne pour elle lors des élections municipales. Première fonction au sein de la droite en 2010, Stéphane Tiki est nommé chargé de mission des nouveaux adhérents, des nouveaux adhérents au sein du Bureau national des jeunes populaires, le mouvement de jeunes de l'UMP. Ensuite, eh bien, il va gravir les échelons, hein, devenant secrétaire national de l'UMP, donc président des jeunes pop jusqu'à la semaine dernière, une fonction à laquelle il avait accédé à titre provisoire, hein, il faut le préciser, c'était en décembre dernier, fonction qu'il devait en principe occuper jusqu'en avril, date du prochain congrès de l'UMP, et il avait été placé là par Nicolas Sarkozy, sur les conseils de Geoffroy Didier, l'un des animateurs de la droite forte, un courant dont il fait partie.
Nicolas Sarkozy qui voit en Stéphane Tiki un jeune talent. Alors Pierre, vous le disiez, Stéphane Tiki arrive donc en France en 2005 avec un visa long séjour. Ensuite, il obtient un visa étudiant.
Voilà. Ensuite, il va obtenir en 2009 et 2010 une carte de séjour étudiant. Mais à partir de 2011, plus rien. Il devient sans papier. Alors, selon ses dires, il aurait fait récemment une demande de naturalisation. Or, selon nos confrères d'Europe 1 qui ont enquêté sur le sujet, cette demande aurait été en réalité faite en 2009. Demande rejeté. Lui-même n'a pas contesté cette demande, enfin ce rejet, et depuis il n'aurait effectué aucune nouvelle démarche de naturalisation, ce qui pose un petit peu problème.
Donc il n'a aujourd'hui plus de titre de séjour en règle.
Il n'a plus de titre de séjour en règle.
Georges, vous aviez une autre question.
Oui, j'en avais deux petites questions. La deuxième, c'était de savoir quelles sont les conséquences de toute cette polémique pour le grand parti que l'UMP.
Alors, Pierre Fersion, les conséquences.
Bien, c'est vrai que c'est le genre de polémique dont on pourrait se passer, hein. Vous savez, l'UMP qui est dans une phase un petit peu compliquée actuellement, avoir dans ses rangs un dirigeant en situation irrégulière alors que vous combattez ardemment l'immigration illégale, ça fait pas très sérieux, hein, faut bien le reconnaître. Malgré cela, l'histoire devrait en rester là, ça n'aura pas plus de conséquences que ça. C'est on pourrait parler d'épiphénomène, même si c'est vrai qu'à l'UMP, on est un peu gêné aux entournures, hein, quand même, par cette histoire. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon il serait mort, et nous avec. Ça, c'est ce que nous disait la semaine dernière un député de l'Est de la France qui commentait un petit peu amusé, un peu aussi dépité par cette affaire. Néanmoins, on sent aujourd'hui quand même que nombre d'élus UMP donnent l'impression de ne pas vouloir l'accabler, car Stéphane Tiki, il faut le reconnaître, était très apprécié en interne. Hein. Il est dépeint par beaucoup comme un homme chaleureux, avenant, qui suscite l'empathie. Certains s'interrogent, pourquoi n'est-il pas venu nous parler de sa situation et nous demander de l'aide ? Il s'est enferré dans le déni, dans un mensonge, je regrette certains. Au moins, ça prouve qu'il n'a pas voulu bénéficier de passe-droit, tant père un autre élu parisien qui le connaît bien.
Georges, votre dernière question.
Oui, je suis quand même curieux de savoir sur quel argument est-ce que Stéphane Tiki, qui n'est pas français, n'avait pas de papier, s'est fondé pour défendre un tel projet.
Oui, son projet, c'est qu'il était, qu'il allait à l'encontre des étrangers en situation irrégulière. Lui, il militait pour interdire notamment le droit de vote des étrangers. C'est paradoxal tout de même. Est-ce qu'il s'est expliqué justement?
Alors, il s'est pas expliqué là-dessus. Il a juste fait un petit communiqué sur Facebook, sur sa page Facebook, mais depuis, il ne répond plus à personne, ni à ses amis. Moi, j'en ai appelé quelques-uns, ni aux médias, bien sûr. Il ne veut pas communiquer, mais c'est vrai qu'on s'étonne quand même. Ces prises de position peuvent surprendre positions très dures en matière d'immigration, vous le disiez, à la fois sur le droit de vote des étrangers aux élections locales et sur l'immigration illégale. Hein. Et le plus étonnant dans cette histoire, c'est que Stéphane Tiki appartient au courant le plus dur de l'UMP, c'est la droite forte, un courant qui est notamment animé par une ancienne figure de l'extrême droite, Guillaume Pelletier. Autant dire que certains à l'UMP ont du mal à comprendre, un responsable qui veut faire appliquer aux autres ce qu'il n'est pas capable de s'appliquer à soi-même. J'ai tout de suite pensé à Cahuzac, m'a confié gêné un élu de l'UMP de premier plan. Hein. C'est vrai que Jérôme Cahuzac, vous vous souvenez, c'était cet ancien ministre du budget, contraint en 2013 à la démission car il détenait un compte à l'étranger alors qu'il était en même temps chargé de lutter contre l'évasion fiscale.
En deux mots, Pierre, il se dit que Nicolas Sarkozy serait favorable à un retour de Stéphane Tiki une fois sa situation régularisée, c'est vrai ou pas?
Ouais, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. À l'UMP, certains me disent que, a priori, ça paraît un peu compliqué, on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé, au risque en plus de relancer la polémique, c'est ce que me disent certains candidats du parti. A priori, il devrait être réintégré dans les, à court terme, à court ou moyen terme, mais sans doute pas au poste de président des Jeunes Pop.
En tout cas, il y aura une élection à la présidence des Jeunes Pop.
A priori, une fois, voilà, au mois d'avril, au moment du congrès.
Merci Pierre Firsion d'être venu répondre à Georges qui nous appelait de Douala, au Cameroun. Nous accueillons Lamine. Bonjour Lamine.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Merci de votre fidélité. Vous avez des questions concernant l'Allemagne et le commerce extérieur allemand.
Effectivement, Juan, j'ai appris sur RFI que le commerce extérieur allemand a eu un excédent de 217 milliards d'euros en 2014, pendant que celui des autres pays européens a baissé. À cet effet, je voudrais comprendre qu'est-ce qui explique vraiment la bonne santé du commerce extérieur allemand par rapport aux autres pays européens.
Ouais, c'est vrai que c'est du jamais vu, hein, selon l'Office fédéral des statistiques. Nouveau record pour le commerce extérieur allemand. Bonjour Pascal Thibault.
Bonjour Juan, bonjour Lamine.
Vous êtes notre correspondant à Berlin. Les chiffres ont été publiés il y a quelques jours. Lamine vient de les donner. L'excédent s'est élevé à 217 milliards d'euros l'année dernière. Comment expliquer l'exception allemande ?
Bon, il faut rappeler que l'Allemagne accumule depuis longtemps des excédents commerciaux, a souvent été par là recordman du monde. Entre-temps, la Chine la rattrape. Il faut dire que le Made in Germany, les produits souvent leaders sur le marché, on pense à la machine-outil, à des biens d'équipement, eh bien, sont un peu indépendants, notamment de leur prix, et se laissent exporter, notamment vers les pays émergents. Alors certes, la Chine a perdu un petit peu en croissance, et les exportations vers la Russie, mais qui n'est pas un marché central, ont baissé par exemple de 20% en raison de la crise l'année dernière. Mais en revanche, il y a eu cette augmentation sensible, augmentation également à remarquer des importations l'an dernier. Alors il y a différents facteurs, il y a le facteur que j'ai évoqué, mais aussi des facteurs conjoncturels, à savoir le prix du pétrole qui a baissé et qui a constitué en quelque sorte une sorte de programme de relance de la conjoncture dans un certain nombre de pays où on a donc plus consommé de Made in Germany. Mmh. Et puis, la baisse du cours de l'euro a aussi favorisé les exportations allemandes encore un peu plus. Et ça va certainement se produire, puisque les experts tablent en 2015 sur un record encore plus important des exportations allemandes, avec une hausse de 4%.
Ah, ce qui est intéressant à souligner tout de même, Pascal Thibault, c'est que l'Allemagne... Pardon, on a tous des problèmes de voix, de gorge ce matin, mais l'Allemagne exporte de plus en plus, mais elle exporte surtout, il me semble, quasiment la moitié de ses produits au sein de l'Union européenne, alors que c'est une zone qui est en crise.
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que l'année dernière, il y a eu une hausse des exportations allemandes vers les pays de la zone euro, pour ne parler que de celle-ci, et ça devrait encore un peu plus s'accentuer cette année en raison du fait qu'un certain nombre de pays de cette zone euro renouent avec la croissance, une croissance encore modeste, mais une croissance tout de même. Mmh. Et puis, en dehors des pays de la zone euro, il y a eu des augmentations sensibles vers des pays comme la Grande-Bretagne ou la Pologne, membre de l'Europe, mais de l'Union européenne, mais non de la zone euro, qui ont une croissance, c'est pour ces deux pays, plus importante. Et c'est effectivement la plupart des exportations allemandes, environ la moitié, se situent sur le sol européen. J'ai évoqué la Chine, mais les États-Unis également, où la conjoncture se porte bien, constitue un marché important pour les produits allemands.
Merci Pascal Thibault, bonne journée à Berlin. Reste avec nous dans un instant le journal et tout de suite après notre débat sur la lutte contre l'insalubrité dans les grandes villes africaines. On attend évidemment vos témoignages. À tout de suite.